Comme chaque mercredi à 17h30, vous retrouvez le magazine Lille 1 Info, magazine consacré à l'actualité et aussi au fondement de cette université de Lille 1. Aujourd'hui, bien, nous sommes heureux d'accueillir Dominique Droma, qui est directeur de la Maison de l'Entrepreneuriat et donc qui dépend de l'Université de Lille 1. Bonjour Monsieur Droma.
Bonjour René, bonsoir à toutes et à tous.
On a eu l'occasion déjà de vous accueillir ici pour une émission il y a, bon, je veux dire, presque un an.
Presque jour pour jour, effectivement, un an.
Mm-hmm. Alors, l'occasion de réactiver nos données, on va dire.
Et l'occasion aussi peut-être d'étendre un petit peu le thème, puisque l'année dernière, on est intervenu plus sur ce qui se passe au niveau de Lille 1 en matière de création d'entreprises, d'entrepreneuriat. Mmh. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être d'avoir une vision un petit peu plus régionale de toute cette activité autour de l'entrepreneuriat, en particulier dans le cadre donc de la Maison de l'Entrepreneuriat, qui est un département du nouveau pôle de recherche et d'enseignement supérieur, le PRES, Université Lille-Nord-de-France, auquel participe l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de la région.
Voilà, donc Monsieur Droma, cette maison, on peut l'appeler maison.
C'est une maison.
Mmh. Elle abrite qui ?
Alors, en fait, elle abrite une toute petite équipe, mais elle regroupe l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de la région. Et quand on dit l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, ce sont toutes les universités publiques, Lille 1, Lille 2, Lille 3, l'Artois, l'UVHC et le littoral. Hein. Aussi les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et l'Institut catholique. Hein, et d'autres acteurs comme l'école d'architecture. Voilà. Et donc c'est l'ensemble du réseau des établissements d'enseignement supérieur de la région qui se sont mobilisés voici 5 ans, en 2004, pour répondre à un appel à projet qui avait été lancé par le ministère, appel à projet au niveau donc national, qui visait à la constitution de maisons de l'entrepreneuriat, qui sont des lieux destinés à la sensibilisation des étudiants de l'enseignement supérieur à l'entrepreneuriat au sens le plus large.
Alors, on imagine bien que pour mettre des universités relativement différentes et qui étaient au départ sur certaines positions, il a fallu un intérêt commun. Qu'est-ce qu'elles ont trouvé de commun dans ce projet ?
Je pense que l'intérêt commun, c'était déjà d'effectuer une forme de mutualisation et d'approche commune et conjointe, justement par rapport à cette thématique très particulière qui était émergente et qui est liée donc à l'entrepreneuriat, qui suppose en tant que tel le développement de comportements qui sont présents au sein de chacun des individus, mais qui doivent effectivement être révélés. Hein, être entreprenant, pour devenir peut-être après être entrepreneur, je dirais que ce sont des qualités que nous avons tous en nous. Et cette évolution particulière, cette prise en considération de l'entrepreneuriat dans le développement d'un cursus à la fois personnel et académique, je dirais que c'est aussi un élément qui a mobilisé l'ensemble des établissements, qui ont pris en considération que l'entrepreneuriat pouvait être une voie d'insertion professionnelle particulière, parmi d'autres, pour les étudiants de ces établissements. Que l'on soit, je dirais, comme à Lille 1, étudiant plutôt discipline scientifique, que l'on soit aussi au niveau de Lille 3, bien que parfois ça puisse paraître un petit peu étonnant de parler d'entrepreneuriat, mais il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui, au terme de leurs études à Lille 3, créent des entreprises, créent des activités, hein, que ce soit bien évidemment aussi en école d'ingénieurs. Il y a cette dimension particulière d'expression personnelle au travers de l'entrepreneuriat, au travers de la création d'entreprises, était vécue par les établissements comme une potentialité qu'il fallait valoriser.
Alors, on sent bien que la région est mobilisée d'une manière générale pour faire face d'un côté à la crise économique, de l'autre côté à des gens qui sont au chômage et qui cherchent du travail. Entreprendre, créer une entreprise, c'est un petit peu ce qu'on essaye d'encourager. Je vois, il y a eu le salon Créé il y a peu de temps.
Nous étions au salon Créé. Alors, c'est vrai que la dynamique est effectivement régionale est très forte. Quand on parlait du lancement de la création de la maison d'entrepreneuriat en 2004, il faut savoir que le conseil régional, le conseil général, l'île métropole comité urbaine sont les institutions qui soutiennent le développement de la maison d'entrepreneuriat, bien évidemment avec le ministère de l'enseignement supérieur qui était à l'origine de l'appel à projet. Mais en même temps, ce qui a je dirais, fondé aussi la création de la maison d'entrepreneuriat, c'est que régionalement, il y avait un programme qui existe toujours, qui s'appelle le programme régional création-transmission d'entreprise, porté par l'ensemble des par le conseil régional et les institutions régionales, et qui vise justement à développer la création d'activités, l'entreprise, à faire émerger des entreprises, à conforter les entreprises existantes et aussi à se préoccuper d'un point très particulier qui est celui de la reprise des entreprises, puisqu'il faut savoir qu'en région Nord-Pas-de-Calais, nous avons quand même un tissu industriel avec des entreprises qui méritent d'être reprises compte tenu du départ potentiel et à la retraite de leurs dirigeants.
Alors, c'est vrai qu'entre l'auto-entreprise, l'auto-entrepreneur, on va dire, et puis ces reprises d'entreprises qui sont importantes parfois, il y a tout un monde.
Alors, il y a effectivement tout un monde. Et il n'est pas accessible, je dirais, de manière comme ça, très rapide ou spontanée, en fonction du type d'entreprise. C'est-à-dire qu'au niveau de la maison d'entrepreneuriat, notre première mission, c'est de la sensibilisation. Donc, c'est de faire comprendre aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur que l'entrepreneuriat existe. Et vous parliez du salon créé. Nous sommes présents lors du salon créé au travers d'animations. Et en particulier, cette année, nous avons animé, en tant que maison d'entrepreneuriat, un challenge qui s'appelle Challenge 30 heures pour créer, animé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille. Ce challenge a mobilisé plus d'une centaine d'étudiants venus de France, de Belgique, d'Angleterre, et pour même certains d'un peu plus loin, puisque nous avions aussi des étudiants chinois et des étudiants hindous, qui n'étaient pas là spécialement pour le salon, mais qui se sont impliqués dans son déroulement. Donc nous avons mobilisé ces étudiants, regroupés par équipes multiculturelles, multidisciplinaires, multi ou internationales, donc des groupes de 10 étudiants mélangeant les origines géographiques et les disciplines, que nous avons fait travailler pendant 30 heures sur un thème que nous leur avons donné. Et à l'époque, le thème, c'était un thème qui intéressait les étudiants, qui associait le loisir. On comprend que le loisir intéresse les étudiants, et une préoccupation d'actualité qui était le développement durable. Donc pendant 30 heures, accompagnés par des professionnels de la création d'entreprises, des coachs qui sont des membres des réseaux d'accompagnement régionaux, par des enseignants des établissements, ces étudiants ont phosphoré. Ils sont partis de rien. Ils avaient juste le thème. Et pendant 30 heures, ils ont fait donc émerger une idée de création d'entreprise, une idée d'activité. Ils l'ont travaillé d'un point de vue un petit peu marketing, marché, concurrence, pour aboutir à un projet ou un pré-projet de création d'entreprise. Et au terme de ces 30 heures, les meilleurs projets ou le meilleur projet a été récompensé.
Alors, il y a très longtemps de cela, on peut dire, la région Nord-Pas-de-Calais était une grande puissance nationale en termes d'industrie. Ce qui veut quand même dire qu'à cette époque-là, il y avait des gens entreprenants. Et ces entrepreneurs-là, est-ce qu'ils ont failli dans leur mission, justement, de poursuivre ou de faire poursuivre leurs activités? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? On ne comprend pas bien.
Il faut voir à quelle période vous faites référence.
Du début du XXe siècle, on va dire.
Non, c'est vrai que la région Nord-Pas-de-Calais est une terre d'entrepreneurs.
Au départ.
Au départ. On l'a un petit peu oublié. Mais tout autant c'est une terre d'entrepreneurs, c'est aussi une terre de salariats. C'est-à-dire que ces entrepreneurs ont mobilisé dans leurs entreprises de nombreux individus. Ils ont effectivement généré une activité économique qui a permis à de nombreuses familles, je dirais, de se développer avec, je dirais, dans un cadre qui parfois n'était pas toujours très très sympathique. Mais ils ont participé effectivement à l'expansion économique de la région. Je ne suis pas économiste, donc je peux supposer qu'effectivement ils ont été confrontés à l'évolution globale, puisqu'on parle déjà de globalisation des marchés, à l'émergence, et là on est typiquement en milieu entrepreneurial, de concurrents qui ont proposé des solutions, des offres qui étaient certainement plus attrayantes pour les clients que celles qui étaient présentées ou proposées par les entrepreneurs régionaux. Et on est là dans une interrogation permanente à laquelle effectivement les territoires s'intéresse, qui est celle du maintien de la compétitivité des entreprises locales au travers de l'innovation pour leur permettre d'affronter les nouveaux concurrents. Donc le fait de faillir peut arriver pour une entreprise, peut arriver, peut, parfois parce que l'entreprise ne prête pas assez attention à l'évolution de son environnement, parfois tout simplement parce qu'elle vit au jour le jour et qu'elle est tournée de manière très forte vers la réponse aux besoins de ses clients.
Mais il y a eu un moment, je veux dire, où il y a eu une certaine heure de gloire. Est-ce que ces entrepreneurs de cette première époque dont on parle ont su suffisamment partager?
Mais il faut... Enfin, là, je ne peux faire qu'une réponse qui est très personnelle. Je pense qu'effectivement, ils ont diffusé de l'information, ils ont diffusé des pratiques, diffusé des comportements. En même temps, je dirais qu'on a vu émerger aussi d'autres types, entre guillemets, d'industriels. Nous avons dans la région de très grands groupes qui sont presque à caractère industriel, bien qu'étant orientés sur des activités qui sont plutôt de service. Hein, et on fait référence au groupe Auchan, à Decathlon, ou à, là, je fais pas de pub, hein, non, mais à d'autres acteurs qui effectivement ont construit, entre guillemets, des empires, au même titre que ceux du 19e siècle ou début du 20e, mais sur des territoires, des activités qui relèvent plus du service que l'industrie, même si maintenant on se rend compte que ces structures développent par ailleurs des activités de production.
Alors en même temps, ces entreprises qui ont réussi, vous en avez cité quelques-unes, effectivement il y en a d'autres, elles n'ont pu réussir que grâce à l'international.
Alors l'internationalisation effectivement est un facteur de développement. Et la proximité pour nous de la frontière, notre présence dans l'euro-région est un vecteur qu'il convient de prendre en considération.
Alors ça fait longtemps qu'on le dit. Est-ce qu'on le fait vraiment ?
Alors, on essaie de le faire. Il y a des activités très fortes, à titre, puisqu'on est à Lille-1. En même temps, il y a des actions qui sont conduites par l'université pour favoriser le rapprochement du milieu universitaire avec le milieu économique et favoriser des développements conjoints à l'international. Nous avons eu des contacts avec la Chambre de commerce, avec la Chambre de commerce internationale pour favoriser effectivement des liens dans ce domaine-là. Ça, parce qu'effectivement, il est nécessaire que les universitaires deviennent d'une certaine manière des ambassadeurs naturels de leur région. Du point de vue industriel, là aussi, il y a des démarches qui sont faites pour favoriser le développement de nos entreprises régionales à l'export. Et les activités qui sont liées aux jeunes entreprises, à la création d'entreprises innovantes. Il y a là aussi des démarches qui sont faites pour que nos jeunes entreprises soient le plus vite possible associées à des démarches internationales.
Alors, c'est vrai qu'il y a des moyens d'ailleurs qui sont réservés à ça. Il y a une orientation politique qui favorise peut-être aussi ça. Par ailleurs, est-ce que la mentalité des Français est vraiment en phase ? Parce que, bon, on peut parler des Belges, par exemple, ou des Anglais. Est-ce que la dynamique vers le développement, vers l'échange, etc., est aussi importante en France que dans ces pays qui, finalement, je pense à la Belgique, c'est un petit pays, mais très dynamique.
Mais il faut penser que la région Nord-Pas-de-Calais est un petit pays très dynamique.
Bien.
Là aussi, où effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour justement favoriser ces liens et cette ouverture vers l'extérieur. À titre indicatif, je dirais, je reviens sur le thème qui est plutôt celui de l'entrepreneuriat, où il y a des projets européens qui sont lancés. On a peut-être l'occasion d'une autre émission sur ce thème. Mais par exemple, la communauté européenne a lancé... ce qu'on appelle le 7e programme cadre européen de développement, de recherche et de développement qui vise à favoriser l'émergence de nouvelles solutions technologiques au travers de programmes de recherche partenariaux menés de manière internationale. Ces programmes de recherche associent des laboratoires de recherche d'universités, d'écoles, d'organismes et aussi des entreprises. Et donc là, on est aussi dans une dynamique entrepreneuriale qui fait qu'une entreprise, une start-up, une jeune entreprise anglaise, va travailler avec une jeune entreprise croate et va travailler avec un laboratoire français, un laboratoire belge. Et donc là, on est aussi dans cette dynamique de développement de l'entrepreneuriat au travers de l'internationalisation de nos compétences et de nos entreprises.
Alors, on a dit que les Français étaient un petit peu frileux d'aller faire du lobbying à Bruxelles, d'aller négocier des financements qui existent et finalement qui sont relativement peu utilisés en proportion du nombre d'habitants. Non ?
Je suis un petit peu gêné pour répondre à votre question, sachant que moi, étant tourné vers le milieu universitaire, je sais très bien que les universitaires de la région se mobilisent pour effectivement saisir les opportunités financières qui apparaissent en matière de recherche, de développement et de formation.
C'est récent ?
C'est pas très récent. Alors, je dirais, là, je change aussi de casquette et je parle d'une structure qui s'appelle le Réseau Europe Région, qui est aussi, je dirais, une action qui est actuellement portée par le pôle de recherche d'enseignement supérieur. Mais c'est une action qui a une dizaine d'années. Et c'est en fait un réseau qui regroupe des acteurs des universités qui interviennent en appui au montage de projets européens en matière de recherche. Donc ce sont des personnels des établissements. Et depuis 10 ans, ces personnels justement travaillent au fait que les chercheurs saisissent des opportunités de financement pour développer des activités de recherche, d'enseignement. Et dans ce contexte-là, les liens sont naturels avec la Commission européenne, avec les officiers, avec les représentants de la communauté. Et donc là, on n'est plus automatiquement dans une notion dite de lobbying, mais on est plus dans une notion d'échange, de représentation, d'information de ce qui se fait dans nos régions pour promouvoir la qualité et la diversité des actions de recherche des établissements. Donc cette notion de lobbying, elle peut être parfois un petit peu péjorative, mais elle est très positive si on la remet, je dirais, dans une démarche de promotion des activités régionales. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'activités régionales qui méritent d'être promues.
Alors, est-ce qu'on sent naître dans les jeunes générations une envie d'agir ? Ça existe un programme Envie d'agir.
Oui, hein. Oui, qui s'adresse aux jeunes générations, justement.
Et aussi d'arriver.
Alors, c'est vrai qu'on voit, émerger des jeunes. Qui sont donc, c'est un peu facile de dire des jeunes, je ne veux pas dire des youngs, ça ferait référence à d'autres. Mais donc des étudiants qui effectivement se sont intéressés par l'entrepreneuriat et au-delà par la création d'entreprise. Il y a une différence entre entrepreneuriat et création d'entreprise. L'entrepreneuriat tel qu'on le vit nous au niveau de la maison, c'est plus, je dirais, l'appui et le développement de compétences, de comportements individuels qui se tourne vers l'initiative, vers la prise de responsabilité, vers tout ça bien évidemment avec le respect d'autrui, avec effectivement une part très importante de créativité, d'accomplissement de soi. Ouais, donc avec une vision qui est plus celle d'être, je dirais, un petit peu un acteur de sa propre vie, à l'inverse parfois de comportements qui sont un petit peu présentés comme étant ceux de la jeunesse où on les voit parfois un petit peu passifs. Ce qui n'est pas toujours vrai. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de dire, ben, écoutez, profitez, explosez-vous, faites-vous plaisir. D'autant plus que ce dont on se rend compte, c'est que les jeunes qui passent, je dirais, qui ont des comportements entrepreneuriaux et qui concrétisent et se tournent vers l'entrepreneuriat, quelque part vivent une passion. Et s'ils sont présents, c'est parce qu'ils ont effectivement cette passion de concrétiser leurs envies, de concrétiser leurs objectifs, de concrétiser un petit peu leurs rêves. Et donc là, dans ce sens-là, ils sont véritablement engagés en se disant qu'ils vont non seulement concrétiser leurs propres envies, mais qu'en parallèle et en complément, ils auront la capacité peut-être de rendre service à leur environnement, d'avoir une utilité sociale au travers d'une création de richesses partagées.
Alors justement, ce nouveau côté, ce nouveau facteur, le côté éthique, développement durable, etc., est-ce que c'est vraiment un axe de développement fort pour les prochaines années ?
Alors, c'est vrai que l'entrepreneuriat durable, l'entrepreneuriat social, c'est une action, c'est un environnement, un secteur que l'on voit effectivement émerger et qui correspond aussi à une demande à la fois de la société et, je dirais, des personnes qui sont en création. On a des créations à caractère, je dirais, innovante, je dirais plus traditionnelle, déjà plus traditionnelle liée à la recherche, liée à la technologie. On a des créations qui, effectivement, se tournent maintenant vers le sociétal, vers le social, vers la prise en considération des besoins de l'environnement. Et c'est peut-être aussi dans cette perspective ou dans ce contexte qu'il faut faire aussi une petite part particulière au statut dont vous parliez, qui est un régime fiscal et pas un statut de création, qui est celui de l'auto-entrepreneur, où l'on a vu, je dirais, exploser récemment au niveau des statistiques nationales le nombre de créations ou de déclarations de création. Avec là, j'ai les chiffres, je dirais, plus de 300 000 créations en termes d'auto-entrepreneurs. 480 000 créations d'entreprises entre janvier et octobre 2009, dont près de 300 000 en tant qu'auto-entrepreneurs.
Mais c'est vrai que, bien sûr, ces chiffres sont importants, mais il faut voir par rapport aux chiffres d'affaires réalisés, ce n'est pas toujours très important.
Alors, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut effectivement être un petit peu prudent. Le statut de je précise que c'est donc l'auto-entrepreneur, pour être un tout petit peu technique, c'est un statut fiscal. Donc, ce n'est pas un statut d'entreprise en tant que SARL, SARS, mais c'est une facilité fiscale qui est offerte à des personnes qui veulent entreprendre seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une entreprise qui mobilise autour d'elle des ressources humaines importantes. C'est une personne seule qui décide effectivement d'avoir une activité. Et bien souvent, ces auto-entrepreneurs, ce sont des personnes qui ont une autre activité à côté et qui vont profiter d'une compétence, qui d'une passion, parce qu'on revient, la passion est souvent présente, qui d'une opportunité pour, je dirais, arrondir un petit peu les fins de mois.
Mais ça peut aussi arrondir les fins de mois des entreprises, parce que certains sont peut-être tentés d'utiliser des auto-entrepreneurs comme sous-traitants à des conditions relativement faibles.
C'est vrai que, alors je vais me permettre peut-être de dire qu'effectivement il y a ce risque. Ce risque de détournement d'un statut fiscal qui est intéressant lui-même parce que justement il permet à des personnes de se lancer en prenant pas trop de risques. Et nous, en tant qu'accompagnants ou tentant d'impulser des démarches de création d'entreprise, c'est vrai que nous sommes parfois tentés de proposer aux pré-créateurs de valider la faisabilité de leur projet d'entreprise en exploitant ce statut d'auto-entrepreneur pendant une période déterminée qui permet, je dirais, sans trop de risques, de s'assurer de la faisabilité et de vérifier qu'il y a bien un marché, qu'il y a bien des clients, qu'il y a bien des offres. Et lorsque cette faisabilité est acquise, d'envisager très franchement de passer à un véritable statut d'entreprise avec une création qui permettra derrière d'embaucher du personnel.
Voilà, alors là on est bien dans le cas de personnes qui veulent développer une activité économique dans des champs nouveaux pour elles. Il y a aussi des gens, un petit peu comme en Italie il y a 30 ans ou 40 ans, quand j'avais vu ça j'étais un peu étonné, où les gens avaient deux ou trois métiers.
Voilà. Donc c'est vrai que quand là effectivement, la particularité, il y a des statistiques, une étude là, qui était sortie il n'y a pas très longtemps d'une boîte qui s'appelle Opinionway, où effectivement, on se rend compte que la moitié des auto-entrepreneurs sont en fait des demandeurs d'emploi, ou des personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle et qui effectivement se déclarent sous ce statut auto-entrepreneur en espérant que derrière, ça leur permettra d'avoir une véritable activité. L'autre moitié, il y a 30% des auto-entrepreneurs qui par ailleurs sont salariés, y compris fonctionnaires, puisque le statut d'auto-entrepreneur est aussi accessible aux fonctionnaires.
Mais c'est vrai que les fonctionnaires ont tendance à voir leur pouvoir d'achat qui baisse, donc voilà, la précarité, elle est quelque part à la fois évidente, elle se développe, et en même temps on donne, j'allais dire, des petits statuts comme ça qui peuvent éventuellement compenser.
Donc là il s'agit effectivement de saisir des opportunités qui se présentent.
C'est vrai que selon la manière dont on regarde les choses, on peut avoir des avis très contrastés.
Voilà. Donc on peut dire effectivement, alors ce qu'il faut voir, et c'est bon, je rejoins un petit peu ce que vous disiez, c'est que 17% des auto-entrepreneurs sont retraités. C'est-à-dire qu'effectivement, ils exploitent ce statut pour arrondir leur fin de mois. Et parfois aussi pour certains, je dirais, pour continuer à avoir une activité qui leur permet de rester aussi dans le milieu économique, puisque avec les transitions avec la retraite ne sont pas toujours évidentes. Et la particularité, ce sur quoi je voulais aussi un petit peu intervenir et attirer l'attention, c'est que seulement 2% des auto-entrepreneurs sont des étudiants. Or, on sait effectivement que les étudiants, bien évidemment, pour certains d'entre eux, cherchent aussi à avoir des revenus qui leur permettent de poursuivre leurs études.
Alors, certains vont travailler dans des chaînes de restaurants fast-food. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Enfin, j'allais dire plus intéressant, plus stimulant, plus...
Je dirais, par rapport à ça, tout dépend aussi un petit peu de l'envie, des orientations, des objectifs de la personne. Pour être entrepreneur, il faut avoir un objectif particulier et il faut détenir une idée qui, effectivement, va avoir une valeur à négocier vis-à-vis du marché. On n'est pas entrepreneur si on n'a rien à proposer, si on n'a pas d'offre à formuler auprès de son environnement. Et c'est peut-être là, je dirais, la différence entre le jeune étudiant qui va effectivement, entre guillemets, louer sa force de travail auprès d'une chaîne de restauration et l'étudiant qui décide de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat parce qu'il a effectivement une offre à formuler dans son environnement. J'ai l'exemple là en tête d'un jeune étudiant de Polytech qui était venu me voir il y a quelques temps et qui avait un projet de création d'activité qui était basé là encore sur sa passion, sur ses loisirs et qui naturellement s'est proposé de bénéficier du statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir avoir une activité qui allait lui ramener un petit peu d'argent tous les mois, tout en lui permettant de continuer ses études. Donc c'est aussi un petit peu cet outil, voir l'auto-entrepreneur, dans certains cas, comme étant un outil qui permet de poursuivre ses études, de vivre un petit peu de sa passion et d'engranger quelques financements intéressants.
Non. Est-ce que ce statut fait aussi disparaître des chiffres du chômage, ceux qui... Vous êtes au courant de ça, non ?
Non, ça, je peux pas.
On les raye de la carte. Ça,
très, très franchement, là, je peux pas vous répondre. C'est vrai que nous, on s'y intéresse parce que nous savons très bien que nous allons avoir des étudiants qui vont venir nous interpeller. Et par contre, donc, notre cible étant effectivement les jeunes étudiants, on est plus dans cette démarche de dire, voilà, il y a un environnement qui peut vous être utile. Soyez réactif.
Bon, donc on l'a bien compris, c'est une mesure qui a un vrai succès en termes de masse, on va dire, en nombre de personnes. Sur le point de vue rentabilité pour les personnes qui exercent, bon, c'est très mitigé. Il y a évidemment des risques de paupérisation si ça continue.
On peut effectivement imaginer qu'il y ait des risques de dérapage.
De dérapage. Et puis il y a aussi autre chose, c'est par exemple la chambre des artisans commence à avoir un relatif mauvais œil. Que certains bénéficient de circonstances plus favorables que leurs entreprises.